Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Durant des siècles, la semaine qui précède la période du carême chrétien, 40 jours, a été l'occasion de festivités plus extravagantes les unes que les autres. Parmi ces festivités, la fête des fous a occupé le devant de la scène pendant presque 11 siècles en France. Quelle est son origine et comment se déroulait-elle? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode en deux parties. Première partie, buvez et videz les pots. Nous sommes à Noyon, en Picardie, en ce dernier dimanche de janvier 1540. Les habitants de la ville attendent avec anxiété la décision que doit prendre le Parlement au sujet des fêtes récemment condamnées par le pape. Comme partout en France depuis des siècles, on célèbre ici tous les ans un carnaval d'autant plus attendu qu'il précède les 40 jours de carême, c'est-à-dire 40 jours de restriction, d'abstinence, de jeûne et de prière. Cette fête est avant tout destinée aux prêtres, aux moines et aux moniales, tous ceux que l'on appelle des clercs, mais le peuple entier y participe. Durant cette semaine de liesse populaire que l'on appelle la fête des fous, tout est permis. On mange, on danse, on se déguise, on chante souvent des chansons paillardes, on s'embrasse à pleine bouche à l'intérieur des églises, et bien pire encore. Certains évêques se sont plaints auprès du pape de ces débordements. Aussi le souverain pontife a-t-il décidé de mettre un frein à ces réjouissances. Si seulement le peuple des fidèles se contentait de faire chou gras et de s'amuser raisonnablement de manière bon enfant. Mais voilà, ces dernières années, le clergé des grandes villes se livre à chaque fois aux pitreries les plus extravagantes. Les clercs s'autorisent à tout dire et à tout faire de la manière la plus scandaleuse et le peuple suit allègrement. En ce début d'année 1540, l'Église a donc décidé d'interdire une pratique qui n'a plus grand-chose à voir avec un simple divertissement. À Noyon, comme partout dans le royaume de France, les modalités sont à peu près les mêmes. La semaine de Mardi Gras est l'occasion d'élire un évêque de carnaval qui prend le titre d'évêque des cornards. Comprenez l'évêque des cocus, souvent appelé également évêque des farceurs ou évêque des fous. Une fois élu, celui-ci organise une parodie de diocèse. Le diocèse, c'est le territoire sur lequel s'exerce l'autorité de l'évêque. Il nomme un abbé des cornards et réunit dans la cathédrale et dans les monastères une assemblée de fidèles à l'occasion de réunions qui sont le prétexte à toutes sortes de gestes impudiques, voire à de véritables scènes d'orgie. Sur la place du Parlement de Noyon, on attend donc avec impatience la décision des magistrats de la ville. On a bon espoir, car face à ceux qui veulent y mettre un terme, la fête est soutenue par un allié de taille qui n'est autre que le roi de France, François Ier, en personne. Il exige que la fête des fous se tienne, conformément à la tradition, dans toutes les villes du royaume. Enfin, voilà l'émissaire du roi qui paraît à la fenêtre de l'hôtel de ville. Son visage est radieux.
Peuple de Noyon, de par le roi, la fête des fous aura bien lieu.
Une clameur immense s'élève de la place. Depuis le quartier général des organisateurs du carnaval, on promulgue un document imprimé et aussitôt placardé dans toutes les rues.
Buvez et videz les pots, dimanche gras, venez avec l'abbé, brouillé, caché, masqué, car la grand cour nous autorise en tout, masque porté jour et nuit jusqu'au bout. Le roi le veut, l'entend et le permet.
La tonalité générale du document est assez simple. Sortez, déguisez-vous, ripaillez, c'est-à-dire buvez et mangez à cœur joie. Le roi le veut et le permet. On élit donc sur le champ l'évêque des fous. Il désigne parmi la foule des prélats qu'il rassemble sous son autorité et rédige un ensemble de lois à l'intention des principales corporations de la ville. Qu'on se le dise.
L'abbé des Cornards est doté d'une dispense pour, tout le temps que durera la fête, avoir des relations licencieuses avec qui bon lui semble. Il n'invoquera pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais le porc, la truie et le ver. Tout cornard marié est autorisé à faire de même avec sa servante ou sa voisine.
Meuniers, couturiers, tailleurs sont appelés à prêter leur concours pour réaliser les costumes. La ville entière se déguise et se grime avec les moyens du bord. Il faut aussi prévoir force boisson. Les taverniers sont priés d'être généreux. Enfin, obligation est faite à tous de nettoyer les rues chaque jour après le passage des processions. Nous sommes à présent le premier dimanche de février 1540. Près de 3000 habitants de Noyon sont réunis sur la place du Parlement, parés pour la procession. Le sieur abbé des Cornards a pris la tête du cortège accompagné de faux prélats. Tout le monde est revêtu de haillons bariolés selon la fantaisie de chacun et masqué. Le secret et l'anonymat sont choses essentielles pour la qualité de la fête. Voilà que résonnent joyeusement tambours, trompettes et fifres. 9 femmes, incarnant les 9 vices du couvent, paradent en tête. Les 9 vices du couvent sont les différents péchés dont on soupçonne qu'ils sévissent dans les couvents, parmi lesquels la gourmandise et la fornication. Derrière ces femmes, un vieil homme monté sur un âne, jambes et bras nus, vêtu d'un drap en loques, incarne la mort. Il tient dans sa main droite une tête de mort. Il est suivi par une troupe de domestiques qui font sonner des clochettes entre chacune de ses prises de parole. Derrière eux, 36 orphelins marchent 2 par 2, portant chacun un grand cierge. Ils précèdent la foule immense, portant des bannières brodées des symboles de la misère humaine. Sur l'une de ces bannières, on voit une église renversée. Sur une autre, un homme est représenté avec 2 boulets aux pieds sur lesquels on lit « crédit ». Une autre figure montre le labeur tenant un fléau à la main. Sur les épaules d'un groupe de célébrants, on a inscrit les noms de toutes les calamités dont l'âme humaine est accablée en ce bas monde. Crainte, ennui, mélancolie, faux semblant, invention, infidélité, abjection, anxiété, désespoir, rapine, ruine, tromperie. Devant cette horde bariolée, joyeuse et grimaçante, l'abbé des Cornards, monté sur un âne, est paré de riches vêtements, robes de damas rouge, manteau de taffetas vert. Il est décrit en ces termes.
Le grandissime, magnifiquissime et potentissime sieur abbé, accoutré en son haut appareil, a les doigts fournis de bons et gros diamants, rubis et autres pierreries.
Les heures passent, le cortège progresse lentement et fait maintenant halte près de la cathédrale. On se prépare à l'office carnavalesque, la messe du carnaval. On chante des cantiques spécialement composés pour la circonstance et dont le mot d'ordre est simple à nouveau. Buvez, déshabillez-vous, montrez vos seins, montrez vos fesses, encanaillez-vous. Et la fête, en effet, tourne à la plus franche débauche. La foule éméchée entre dans l'église. On y festoie et l'on y mange sur le saint autel, où sont rassemblés pêle-mêle pâtés, jambons et boudins. On se rend aussi dans les couvents, dont on défonce les portes. Les moniales, portant des masques nommés barboires, parce qu'ils sont couverts de poils, attendent leurs visiteurs rendus fous de désir par l'abus de vin. Dans les encensoirs, on se met à brûler de vieilles savates. Pour un voyageur étranger qui découvrirait pour la première fois le royaume de France à cette époque de l'année, ce spectacle est tout simplement effarant. Comment l'Église catholique peut-elle tolérer cette fête des fous qui tient de la débauche la plus débridée ? À Noyon, On lui répondra que cette fête existe depuis des temps immémoriaux. On l'a toujours connue. Elle est l'héritière de fêtes anciennes pratiquées dans le monde gréco-romain et dont le christianisme naissant n'a pas voulu priver les fidèles. Elle constitue un moment de défoulement, un exutoire indispensable au peuple. Voilà pourquoi la foule inquiète attend à Noyon l'autorisation du roi François Ier de continuer à les célébrer. Les fidèles ont besoin de se défouler avant le carême de 40 jours où l'on devra symboliquement suivre le Christ au désert et pratiquer le jeûne et la prière. Les évêques ont-ils tardé à prendre la mesure des débordements inévitables liés à ces manifestations ou bien ont-ils tout simplement fermé les yeux sur ce qui leur apparaissait comme un mal nécessaire? À Noyon, ceux qui veulent interdire la fête des fous invoque le théologien saint Augustin, qui au 5e siècle a été le premier à qualifier ces fêtes de
« crachat à la face du Christ ».
Il dénonce
« ces bouffonneries, danses, clameurs et huées au milieu même du temple, dans le sanctuaire ».
Il est vrai que pendant la fête des fous, c'est bien l'Église qui est moquée par ses serviteurs et par les fidèles. On se pare des vêtements sacerdotaux dérobés aux vrais prêtres. On parodie les sacrements. On dit la messe tout en ripaillant. En témoigne ce document du Xe siècle.
On élit un papam fatuorum, un pape des fous. On voit les clercs et les prêtres faire un mélange affreux de folie et d'impiété pendant le service divin, où ils n'assistent qu'en habit de mascarade et de comédie. Les uns sont masqués ou avec des visages barbouillés à faire peur, les autres en habit de femme. Ils dansent, chantent des chansons obscènes.
Voilà pourquoi le doyen du chapitre de Noyon, qui est le second personnage du diocèse après l'évêque, réclame à grands cris depuis des années l'interdiction de cette cavalcade ridicule et obscène qui offense ce que l'Église a de plus sacré. Peine perdue, il n'est ni le premier ni le dernier à avoir échoué dans cette entreprise. Au début du XIIIe siècle, Odon de Sully, évêque de Paris, s'y est cassé les dents.
Odon travailla à faire détruire la fête des fous, qu'en quelques endroits on appelait la fête des innocents. Il s'efforça de mettre un terme à cette détestable momerie, ayant à cet effet obtenu un mandement du légat du Saint-Siège qui venait visiter son église. Mais cette folie dura encore plus de 250 ans, puisqu'on la retrouve en 1444, et que le concile de Sens, tenu en 1460, en parle encore comme d'un abus qu'il fallait trancher.
Le pape Innocent III lui-même s'était indigné en pure perte.
Nous vous enjoignons d'exterminer de vos églises la coutume, ou plutôt l'abus et le dérèglement de ces spectacles et de ces jeux honteux, afin que cette impureté ne souille pas l'honneur de l'Église.
À Noyon, nul n'estime cette pratique honteuse. Comment d'ailleurs pourrait-on avoir honte d'une fête associée si intimement à une autre, beaucoup plus ancienne et pour le coup plébiscitée par tous ? La fête des innocents, fête des innocents qui met à contribution les enfants. Des enfants prenant le pouvoir dans l'Église, c'est le monde à l'envers. Mais comment se déroule cette fête? D'où est-elle née? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode consacré à la fête des fous.